Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Parole aux Jeunes, votre rendez-vous dédié à celles et ceux qui construisent leur avenir ici, sur notre territoire. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un atelier particulier, un atelier média en partenariat avec la mission locale Vallée Montmorency. Pendant plusieurs séances, des jeunes ont découvert les coulisses de la radio, comment préparer une interview, prendre la parole avec confiance, structurer ses idées, débattre, informer, bref, devenir acteur de l'information plutôt que de simple spectateur. Et tout de suite, j'accueille Farah, Chelsea, Justine, Miguel et Nassim. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, vous avez choisi de parler d'un sujet quand même assez sérieux, je trouve, hein, puisque il va être question d'études supérieures, de l'intelligence artificielle dans le travail et d'une quête de sens à sa vie. Et voilà, on va animer pendant un quart d'heure, on va débattre tous ensemble. Alors, qui veut commencer sur peut-être les études supérieures? Qui veut prendre la parole? Justine? Allez, tu te lances.
Très bien.
Justine.
Alors, nous, on est plus d'abord, on s'est rendu compte qu'en fait, on a une vision sur le travail qui est de moins en moins longue parce qu'on a une très forte difficulté à y entrer, déjà dans un premier temps. Et ensuite, tout simplement, cette idée de faire un même métier pendant 40 ans n'est plus vraiment ce qu'on recherche. Voilà, et les études en font partie. Le problème de Parcoursup, surtout, oui. Est pas mal revenu lorsqu'on discutait entre nous, où c'est vrai que il y en a qui, voilà, réussissent dès la suite du bac et d'autres qui se font bloquer juste parce que un site a décidé qu'il n'était pas suffisant pour aller dans telle ou telle étude. Et qu'il n'y a aucun moyen de faire autrement ou faire hors Parcoursup, mais ça veut dire payer. Et tout le monde n'a pas forcément la possibilité de payer ces fameuses études-là. On parlait aussi du fait qu'on nous vend beaucoup le bac général comme la meilleure des solutions, ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes qui ont fait des bacs pro ou des bacs techniques sont dans le monde du travail. Pas tous, évidemment, mais certains. Mmh. Et la difficulté de l'alternance. On nous vend l'alternance comme le chemin de la réussite, oui, pour, oui, l'entrée du travail.
Comme la panacée, et finalement
Je ne connais pas, je vous avoue, mais sûrement. Et au final, quand je ne suis pas concernée, j'avoue. Peut-être que l'un d'entre, oui, vous pourra reprendre pour ça.
Ouais, et...
Merci Justine. Alors, peut-être une question comme ça que je pose à vous cinq. Quand vous pensez à votre avenir, quel mot vous vient spontanément, Farah?
Bah, les études.
Les études.
Mais malheureusement, à cause de Parcoursup, je trouve ça... Enfin, je comprends pas comment c'est une plateforme qui peut décider de, ouais, de ce qu'on peut devenir. Et ça veut dire, si on n'est pas accepté, ben, on n'a pas d'issue de secours. Mmh. Et je trouve ça...
Oui.
Triste.
Ça
nous freine.
Ça te dérange.
Moi, personnellement, ça fait 2 années, à cause de Parcoursup, bah, j'ai rien.
Ah oui, donc c'est un vrai problème. Chelsea?
Bah, moi, personnellement, je suis un peu dans le flou parce que, du coup, comme Justine l'avait dit, moi, je me vois pas travailler pendant 40 ans, faire le même travail. Et aussi pour les études, le fait que j'ai pas trouvé d'alternance, ben, ça m'a un peu découragée, et aussi reprendre les études et tout. Quand je vois que, par exemple, je suis déjà tombée sur une vidéo d'un sans-abri qui avait fait des longues études et final, ben, du coup, il se retrouve à la rue. Mmh. Je me dis, est-ce que les études, c'est aussi important que ça? Parce que y a des gens qui font des longues études pour au final se retrouver à la rue ou galérer à trouver un travail. Ou, par exemple, se retrouver remplacé par l'IA. Du coup, je me pose plein de questions,
oui,
sur,
oui,
ça.
Oui, c'est un vrai sujet. Mm. Merci, Chelsea. Ouais. Donc, Justine, tu nous as donné ton point de vue. Donc, Nassim?
Personnellement, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est incertain.
Ah oui.
Personnellement.
pour avoir tenté une licence dans le, qui était synonyme d'études supérieures, avec toutes les idées que je pouvais m'en faire. Entre le fait de voir la différence entre le lycée et les études supérieures et le fait de, d'aller dans une branche qui me plaît pas vraiment une fois que je suis dedans, ça a été très difficile. Et encore maintenant, plusieurs années plus tard, c'est principalement plein de doutes et de questions. Mmh. C'est ça, c'est le, les synonymes principaux qui ressortent avec ça.
D'où l'incertitude.
Et au fil des années, je découvre que je suis pas du tout le seul.
Oui,
ça a l'air
sûr.
Même de,
oui, vous
d'augmenter.
Êtes, assez nombreux. Merci, Nassim.
Merci à toi.
Miguel Tu voulais parler d'alternance, je
ouais,
pense.
Oui, je voulais parler d'alternance.
Toi, tu as déjà vécu ce...
Ouais, j'ai... Ouais, ouais.
L'alternance.
Oui, et... pour moi, en fait, depuis, depuis le mois de janvier, depuis l'année passée, j'ai dû arrêter ma formation d'être soignant parce que j'avais du mal à trouver un employeur. Mmh. Et au cours de mes recherches d'employeur, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que un employeur me dit par mail, me répond par mail que il ne peut pas me prendre parce que je n'ai pas assez d'expérience.
Ah oui. Et ouais, c'est un serpent qui se mord la queue.
Voilà.
Mais ça, tu sais, ça existe depuis. Moi, je me souviens que j'ai vécu les mêmes mêmes problèmes, c'est-à-dire quand je voulais faire des stages et on me disait bah non, vous avez pas assez d'expérience, donc bon, c'est récurrent ça.
Ouais, et c'est ce qui me choque un peu le plus.
Ça te
parce
choque,
que
ouais.
Comment vous voulez avoir des gens qualifiés qui ont de l'expérience alors que vous êtes pas, que vous êtes incapable de les prendre sur vos ailes et les former, et c'est tout. Hein.
Ouais. Donc pour vous. Les études supérieures sont pas forcément un gage de réussite dans la vie.
Non,
est-ce qu'on peut résumer ça par cette phrase?
Oui, c'est ça.
Oui, clairement.
Oui.
Parce que, par exemple,
Chelsea,
pour les influenceurs, on voit qu'il y en a, ils réussissent sans faire des grandes études.
Du coup, oui, après, les influenceurs, c'est peut-être pas... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais ils sont peu nombreux par rapport au nombre de personnes qui travaillent.
Ouais.
Qui travaillent. Mmh. Hein? Ça te donne envie d'être influenceuse,
non,
par exemple
tout.
Non, quand même pas. D'accord. Vous avez souhaité aussi parler de l'IA, qui est en lien avec ce dont nous parlons aujourd'hui. Est-ce que c'est pour vous une menace ou une opportunité professionnellement, l'IA?
C'est une menace parce qu'en vrai, bah, ils n'auront plus besoin de qualifier des personnes vu que tout sera sur Internet, tout sera sur l'IA.
Donc, tu penses que des métiers vont disparaître?
Oui, je pense.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui vont émerger grâce à l'IA?
Oui, aussi, mais je pense qu'il y aura moins de personnes qui seront embauchées parce qu'ils n'auront plus besoin vu qu'il y aura l'IA.
Donc, pour toi, c'est une vraie menace.
Oui, ouais. Je pense.
Merci, Farah. Ouais. Chelsea, l'IA, c'est une menace ou une opportunité?
Moi aussi, je trouve que c'est une menace. Parce qu'en plus, déjà, que, par exemple, il y a certaines études où il n'y a pas beaucoup de débouchés. Si en plus, il y a l'IA qui prend la place des métiers, bah, ça va être encore plus galère à trouver un travail,
ouais.
Je trouve.
Justine?
Pour moi, c'est clairement une menace.
Une menace
Oui, comme toute technologie, je pense que ça rapportera, ça apportera des nouveaux métiers, mais ça sera très minime, je pense, par rapport au nombre qui va en disparaître si elle n'est pas régulée. Je pense pas qu'il faut supprimer l'IA, mais je pense qu'il faut qu'elle soit au minimum régulée, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Moi, je suis dans le domaine artistique, et notre plus grand ennemi, c'est l'IA générative, qui nous vole littéralement nos travaux, pour ensuite les utiliser pour n'importe qui et qui ne savent même pas d'où viennent les bases. Et on est là à continuer à travailler pendant des heures pour faire un dessin magnifique, par exemple, pour une affiche qui, derrière, va être repris des centaines, voire plus, par des personnes qui n'ont même pas conscience de qui on est et combien de temps on a mis à la tâche. On perd de l'humain, je trouve, en tout cas dans le milieu artistique. Et pour l'instant, c'est de l'égénérative, c'est sur de l'artistique beaucoup qui est touché.
Mais oui, je pense que ça va toucher ailleurs. À la clé, les éditeurs, en plus, ne rémunèrent pas les auteurs de ces dessins.
Oui, tout à
fait.
Bah, typiquement, les JO qui sont d'actualité ont carrément fait une introduction par IA.
Oui.
Et c'est, enfin, je trouve ça scandaleux, en fait, quand on prône l'humain par le sport, mais on le prône pas par l'art. Je trouve ça assez ironique, en fait.
Mais oui, c'est une bonne réflexion. Merci, merci Justine. Nassim, toi, ton avis sur l'IA, menace ou opportunité?
J'aurais tendance à dire menace aussi. Après, personnellement, je suis plus du côté des personnes qui sont débutantes, à savoir que j'ignore la majorité des choses sur l'IA en général, même l'IA générative. J'aurais plus tendance à avoir le regard d'une personne qui est client de plein de domaines artistiques et qui voit ce que ça peut menacer, tant pour le côté des personnes avec leurs emplois que des personnes qui sont clientes de tous ces emplois-là, justement, toutes les personnes qui en bénéficient. Et l'échelle a l'air assez grande, même vue de l'extérieur.
Ouais.
Donc c'est pour ça que ce serait plutôt une menace, effectivement.
Ouais. Merci, Nassim. Miguel, ton avis?
Bah, pour moi, je pense que l'IA, c'est une menace. Parce que dès le moment que une plateforme qui s'appelle Parcoursup est totalement contrôlée par l'IA.
Oui, c'est ça, c'est les algorithmes qui font peur.
Voilà, et la plupart des jeunes de nos jours sont chez eux à cause de l'IA, parce qu'ils arrivent pas à trouver soit de l'alternance, soit fait un BTH.
Faire un choix, un vrai choix. Ouais. Merci Miguel. Non. Alors, donc ce débat entre vous, donc on est parti des études supérieures, de l'IA, et se poser la question de la quête du sens à sa vie. Donc, Farah, c'est quoi une vie réussie pour toi ?
Bah, attendre un maximum d'objectifs, et je me dis qu'il faut pas se mettre la pression, qu'on avance tous à notre rythme, peu importe notre âge, et que voilà.
Ouais, c'est une belle réponse. Chelsea, est-ce que tu penses qu'on peut faire un métier sans être passionné? Tu as réfléchi?
Oui, ça existe.
Oui.
Bah, par exemple, quand on n'a pas le choix, du coup, parce que ça dépend des moyens, du cadre de vie. Parce que, par exemple, si dans notre vie personnelle, familiale, ça ne va pas, et bah, du coup, ça va un peu nous infecter niveau professionnel, que ça soit aussi dans les études. Parce que, par exemple, je connais une personne qui a du coup eu beaucoup de problèmes familiaux, et à cause de ça, elle n'a pas pu avoir son brevet, ni son bac. Ouais, voilà. Du coup, ça affecte beaucoup.
Ouais, et c'est un sujet dont on va parler peut-être tout à l'heure, et puis tu débattras également. Oui. Donc, toi, tu penses qu'on peut exercer un métier sans être passionné?
Oui, si on n'a pas le choix, du coup. Ouais.
Merci, Chelsea.
Il n'y a pas de quoi.
Justine, alors, je te pose la question autrement. Est-ce que pour exercer un travail, il faut forcément avoir une vocation?
Une vocation, vous voulez dire par étude ou par...
Oui, avoir une... Tu parles d'artiste, toi t'es artiste, donc c'est une vocation? Tu n'as pas envie de faire d'autre chose?
Pour moi, c'est une passion avant tout, qui m'a menée à faire le choix de vouloir travailler dedans. Mais voilà, moi j'ai vécu différentes expériences qui font qu'aujourd'hui, je vois le futur. Je ne lâche pas ma passion et cette idée de vouloir travailler dedans de manière complète. Mais aujourd'hui, j'essaye de me dire, c'est un bonus. Je fais ce que je peux et j'avance comme je peux pour atteindre ce fameux but d'y vivre complètement. Mais je ne me fais pas trop d'illusions à l'idée que...
Tu donnes quand même tous les moyens.
Oui, voilà. Mais je me dis, je préfère avoir un travail à côté qui, entre guillemets, ne me plaît pas, dans le sens où ce n'est pas ce que je recherchais de base.
Ce qu'on appelle un travail alimentaire.
Oui. Oui, c'est pour ça à la base. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est aussi dans une qualité de vie, pas juste alimentaire. Parce que beaucoup le prennent pour juste payer les factures. Là où moi, je sais que si je peux pas être dans l'artistique, je souhaiterais avoir un métier qui me permette payer mes factures, entre autres, mais également faire des voyages ou des loisirs, parce que c'est vrai que je ressens ce besoin de prendre soin de moi, on va dire, et de pas me tuer à la tâche dans un travail, quoi.
Bah, t'as bien raison. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci, Justine. Nassim et Miguel, est-ce que vous êtes prêts à gagner moins, mais avec un métier qui aurait du sens, Nassim ?
À titre personnel, je sais que oui.
Oui.
Si le métier dans lequel je me trouvais était une passion, ça ne serait pas un problème pour moi.
De gagner moins.
Je serais prêt à faire le sacrifice.
Bien sûr, ouais, d'accord. Merci Nassim. Et toi, Miguel ?
Bah, à titre personnel, oui.
Oui, aussi.
Oui. Je n'ai rien à rajouter. Yassine, il a tout dit.
Alors moi, je vais vous poser aussi la question avant de donner la parole à Laïssa, hein, qui nous accompagne et que je n'ai pas présenté. Laïssa, coucou. Vous êtes tous donc à la mission locale de Valais-Montmorency. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans cette mission locale, Farah ?
Bah, c'est bien parce qu'on a un suivi. On ne se retrouve pas seul à soi-même. Et en plus, on a beaucoup d'activités, donc ça nous permet d'apprendre, d'enrichir nos connaissances, de faire des nouvelles rencontres et de ne pas rester seul, isolé.
Ouais,
ouais. Et voilà, je trouve que ça fait une bonne expérience.
Bah écoute, merci, c'est une bonne définition. Jessie ?
Pour moi, je trouve que la mission locale est très utile parce que du coup, ils nous accompagnent par exemple pour les études sup, parce que du coup, après l'école, on n'a pas eu de suivi, on n'a pas eu d'aide, et du coup, heureusement qu'il y a la mission locale pour ça. Et aussi, bah, du coup, comme Farah l'a dit, ça nous permet d'avoir une vie sociale,
ouais,
de faire des nouvelles rencontres, de tester des activités, par exemple la radio, du coup, que j'ai jamais fait, et que je pense pas que j'aurais fait si je ne serais pas
allée à la mission locale.
Oui, c'est ça.
Merci, Chelsea. Justine ?
Un soutien. Ça rejoint en fait un peu les filles, hein. C'est vraiment ce côté de, on va nous montrer des opportunités, on va nous rappeler aussi quels sont nos objectifs parfois, qu'on peut oublier quand on est dans une routine parce qu'on a trouvé un job alimentaire ou quoi. Moi je sais que par le biais de la mission locale où je suis, on a la possibilité de faire des Erasmus et je pensais que c'était propre aux étudiants. Donc,
alors qu'en fait, tout est ouvert.
Finalement. Voilà, et j'ai découvert un champ de possibilités. Ils m'ont envoyé sur différentes associations qui, justement, montrent les possibilités dans le monde entier qu'il y a. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce soutien-là. Et puis, si on a des problèmes familiaux, ça nous, avec une pression parentale ou quoi, sur cette recherche, des fois,
c'est
avoir...
C'est un refuge.
Voilà, c'est ça, c'est un refuge qui nous accueille et qui ne nous juge absolument pas et vient justement nous soutenir là-dedans par différents moyens.
Merci Justine. Nassim ?
Personnellement, c'est, comme l'a dit Justine, c'est un soutien, une aide en général, surtout quand on est dans une situation difficile pour X ou Y raison, ne serait-ce que par exemple comme pour beaucoup de gens, surtout les jeunes bien sûr, comme quand on est dans une période de doute qui dure depuis un long moment, c'est un soutien presque indispensable.
C'est une bulle d'oxygène.
Il y a énormément de bienfaits de la découverte, sortir de la routine, la notion de se fixer des objectifs et de réussir à essayer de s'y tenir, et le fait de ne pas être seul aussi. C'est qu'il y a pour beaucoup d'entre nous, dont je fais partie, il y a la notion aussi d'aller dans un endroit où les personnes présentes semblent avoir la volonté de vraiment nous aider, de se soucier de nous, et où les personnes qui nous entourent sont aussi dans des situations similaires qu'on n'a pas forcément croisé avant. Donc ça facilite la compréhension et ça nous permet d'apprendre plein de choses aussi.
Avec des problématiques similaires.
C'est
ça. Et puis un véritable engagement de la part de la mission locale à vous aider. Merci Nassim. Miguel ?
Pour moi, je trouve que la mission locale m'a apporté beaucoup de choses, m'a fait découvrir beaucoup de choses, comme on parlait à l'IA. Comment se préparer pour une embauche, comment chercher une recherche d'emploi, tout ça.
Ouais, c'est ça, des bonnes ondes.
Oui, tout à fait.
Merci Miguel.
De rien.
Laïssa, ton témoignage par rapport au sujet qui, qui ont été débattus là tout de suite et puis leur réaction par rapport à la mission locale?
Bah, je pense qu'ils ont bien résumé pour moi la quête de sens dans un métier. Parce que en tant que responsable de communication, bosser pour une grosse boîte, ça m'intéressait pas du tout. Mais du coup, bosser dans le monde associatif, ça donne du sens à mon métier. Tous les retours qu'ils viennent de faire, ça montre bien que je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je communique, pourquoi j'ai envie que la mission locale soit connue. Et bah, ils l'ont résumé avec leurs mots et leur propre expérience, et ça veut tout dire.
Merci Laïssa, merci. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
C'est toujours la parole aux jeunes et nous poursuivons notre débat avec un autre groupe donc de la mission locale Vallée-Montmorency. Un groupe donc composé de Vicente, Valentin, Miguel, Benjamin et Alicia. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Et merci d'être chez nous, chez IDFM Radio. Alors vous avez eu envie de parler du portable, de votre rapport au téléphone portable. Donc vous avez choisi de parler du rapport au portable au quotidien et des conséquences sur la désinformation. Alors je pose la question à, on va commencer par Vicente. Vicente, c'est quoi toi ton rapport au portable au quotidien?
Le portable, comme vous le savez bien, ça fait partie de la vie, c'est même un essentiel. C'est même plus important que notre cerveau, hein. Ça fait partie du cerveau maintenant.
Tu l'utilises comme ça, dès que tu te réveilles, c'est la première chose que tu fais, tu prends ton portable.
Oui, ça peut arriver. Enfin, oui, donc c'est pour ça que j'essaye un peu de réduire mon temps d'écran. Par exemple, par semaine, j'essaie de faire parfois 10 heures.
Ah oui, 12, quand même.
Ou 8 heures. Enfin, j'essaie vraiment de réduire. Parce que, en fait, le téléphone, ça nous fait perdre du temps. Notre productivité aussi, ça nous empêche de réfléchir, de nous concentrer.
Et est-ce que du coup, tu as l'impression que c'est toi qui contrôle ton téléphone ou c'est ton téléphone qui te contrôle?
Ah, parfois ça dépend. Hein. Parfois on veut juste regarder un petit truc et au final, on se retrouve à scroller, oui,
ouais.
Pendant très longtemps.
Bon.
Alors qu'on avait prévu de faire quelque chose.
Ouais. Donc c'est un petit peu une addiction, hein, quand
oui.
même. Benjamin, toi, ton rapport au portable? Au quotidien. Est-ce que c'est lui qui te contrôle?
Oui et non, je dirais. Parce que, vu que je sors beaucoup, je fais beaucoup de sport. Donc en soi, c'est pas mon téléphone qui me domine.
T'as le sentiment quand même que tu contrôles plus toi-même?
Ouais, je contrôle un peu. Je regarde juste mon téléphone pour garder l'heure parce qu'après, j'ai des trucs à faire, etc. Mais sinon, oui, il peut avoir une dépendance, une dépendance au téléphone. Après, c'est au téléphone, on va dire plus aux écrans, quoi.
Ouais.
Parce que c'est plus les écrans qui dominent que le téléphone.
Oui, mais
quoi.
Enfin, ça reste le portable quand même.
Parce que le téléphone, après, c'est un outil qu'on ouais. utilise dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour le travail, pour aussi planifier quelque chose, pour se donner, pour préparer une journée peut-être aussi.
Pour toi c'est un outil quand même.
C'est aussi mon outil de travail. Par exemple que quand je dois faire du montage etc. Je me sers là-dessus quoi au lieu de prendre un ordinateur. Donc pour moi c'est très difficile de ne pas avoir
pas
une
d'addiction dépendance. Pour Benjamin. Merci Benjamin. Alicia, toi combien de temps tu passes sur ton téléphone portable?
Quasiment presque toute la journée.
Toute la journée. Et qu'est-ce que ça tu en fais quoi? Passer la journée sur le portable, c'est pour faire quoi? Si c'est pas indiscret. Tu regardes des séries, tu regardes des informations, c'est quoi le but?
Je suis sur TikTok.
T'es sur TikTok. Donc c'est l'application sur laquelle t'es le plus...
TikTok, Snap, toutes les applications, à peu près.
Merci Alicia. Valentin?
Oui.
Tu passes du temps sur ton portable?
Je passe du temps sur mon portable, mais j'essaie de me limiter. J'ai un minuteur sur mon téléphone, par exemple,
oui.
Qui est fixé à 4h40 par jour. Donc c'est à la fois beaucoup, mais en même temps, ça me permet de me limiter.
C'est moins de 10 heures.
Mais du coup, j'ai une espèce de truc un peu paradoxal avec ça. C'est que quand j'atteins mes 4h40, Je rebondis sur ce qui a été dit. En fait, c'est plus une addiction aux écrans qu'au téléphone, parce que quand j'atteins ma limite de mon minuteur, eh ben, je vais basculer sur mon ordinateur portable, par exemple, pour continuer ce que j'avais commencé à faire.
Tu ruses.
Donc, voilà. Donc, après, le soir, je fais, oh, j'ai fait que 3h30 sur mon téléphone aujourd'hui, sauf que je me suis fait 5 heures de PC juste avant.
Oui, donc, on va plus parler d'écran que de portable, alors, à ce moment-là.
Plus approprié après.
Ouais. Et la plateforme, pareil, tu es plutôt sur TikTok, Instagram?
TikTok, pas du tout, non.
Non. Sur quelle application?
Très rarement, j'ai des amis qui m'envoient des trucs, donc j'ouvre l'application une fois tous les 6 mois, mais je suis plus sur d'autres applications, ouais.
D'autres plateformes.
Au lieu de scroller les TikTok, je scrolle les Reels sur Instagram, mais c'est exactement la même chose.
Merci Valentin. Miguel, alors, toi, ton avis?
Moi, mon avis sur le portable, je trouve que le portable, c'est un outil c'est pour et contre.
Ouais.
Je vais partir d'abord sur le pour. Le portable, ça peut être un outil de travail, ça peut nous aider surtout dans des moments difficiles. Le portable peut nous aider, comme même pour se réveiller les matins, on a besoin du portable pour pouvoir se réveiller, sinon
on va pas se réveiller. Comme réveil, d'accord. Et quand tu te réveilles, est-ce que tu prends en direct ton portable?
Non, pas du tout. Non, j'essaye d'abord de me rafraîchir la mémoire avant de prendre le portable, et je trouve que c'est nécessaire. Et le concre, c'est que de nos jours, il y a plusieurs jeunes qui sont co-focalisés que sur les portables. Il y en a qui n'arrivent pas à se concentrer. Et je trouve ça vraiment dommage. Comme si c'est pour faire un CV ou une lettre de motivation, un jeune va commencer, après il va pas finir. En fait, il va se donner des objectifs, mais le portable va venir couper ses objectifs.
Il a arrêté dans son élan.
Oui, dans son élan. Et je trouve ça dommage.
Merci Miguel. Alors, parler du téléphone portable, c'est parler aussi, enfin, des écrans, c'est parler de la désinformation ou des fake news. Vous avez conscience que aujourd'hui, avec l'IA, il y a une vraie manipulation de nous-mêmes, même nous adultes. Comment on peut vérifier, Vicente, comment on peut vérifier qu'une information est vraie, selon toi?
Pour vérifier, on peut vérifier grâce à Google, par exemple, pour une image. Il y a sur Google Images, on peut chercher.
Et tu as cette démarche, toi, quand tu vois une information, est-ce que tu as la démarche d'aller croiser cette information avec une autre pour vérifier?
Oui. Enfin, pas moi pour les images, mais après, moi pour l'IA, je trouve que j'arrive à reconnaître qui c'est faux, mais ça devient vraiment de plus en plus dur.
Oui.
Mais pour l'instant, ça va.
Ça va. Tu as quand même ce réflexe de vérifier. C'est bien. Tu sais que c'est ta liberté d'expression qui est en jeu, hein, de vérifier comme ça les informations.
Oui. Le problème, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent et on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et les gens, ils ne vérifient pas.
Mais d'où, justement, l'importance d'aller vérifier, prendre un peu de temps, quitte à être sur son écran, passer un petit peu de temps pour vérifier les informations. Merci, Vicente. Benjamin, alors toi, est-ce que tu vas vérifier une information? Ou alors, plutôt, est-ce que ça t'est arrivé de partager une info qui s'est finalement révélée fausse?
Oui.
Oui.
Ça m'est déjà arrivé. Je me suis même déjà fait arnaquer une fois. Donc, du coup, maintenant, je reste hyper vigilant face à ça. Et que, maintenant, c'est une vraie menace maintenant qui plaine. C'est comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de notre tête.
Et depuis que tu t'es fait arnaquer, comme tu dis, tu prends la peine de vérifier?
Ouais. Je prends la peine de vérifier et puis ça me permet au moins de garder un contrôle là-dessus, parce que du coup on est en problème. Par exemple, justement, à vous, je vous préviens aussi, faites attention aux hub routeurs.
Oui.
comme ce qui s'est passé pour Anne, justement, avec l'histoire, avec l'affaire Brad Pitt.
Oui, oui.
Si vous voyez que la photo, elle est quasiment illisible ou que ça sent un peu le montage vidéo, la couper.
Il faut passer à autre chose.
Passer à autre chose. Parce que sinon, après...
Merci Benjamin, merci. Alicia, alors toi, est-ce que ça t'est arrivé de te trouver confrontée à une fake news sans que tu aies conscience que c'en était une?
En général, oui.
Oui, oui. Tu as un exemple précis à nous citer?
Je ne sais pas si c'est un faux compte.
Un faux compte, oui.
Explique-nous. C'était sur TikTok, c'était une TikTokeuse. C'était une TikTokeuse, mais générée par une IA.
Ah oui. Et donc, toi, tu as cru que c'était une vraie personne et que voilà, tu es allée à fond dans ce qu'elle disait?
Oui.
Et qu'est-ce qui fait que tu as compris que c'était finalement une fake news?
Parce que les gens, enfin, c'est pas moi-même qui a découvert que c'était une fake news, pardon. C'est les gens, ils ont vu que en gros c'était de l'IA et que c'était des vidéos prises mélangées à de l'IA.
Donc une vraie conscience qu'il faut vérifier les informations, puisque comme on l'a dit en préparant cette émission. Il peut y avoir manipulation de foule, hein, et donc c'est là où ça devient très grave. Valentin, on a parlé d'influenceurs. Est-ce que, avec le groupe précédent, on a parlé d'influenceurs. Est-ce que tu penses qu'ils ont une vraie responsabilité dans des choix d'opinion?
Je pense que oui. C'est ils véhiculent forcément des messages, donc après. Est-ce que
toi, par exemple, tu en suis des influenceurs?
Oui, j'en suis dans plein de milieux différents. Je pense que tout le monde en suit. Comment expliquer ça? Ils vont dire, c'est des personnes comme tout le monde. Ils ont aussi des opinions, des choses comme ça. Et ils vont le partager à notre échelle. Sauf que c'est des personnes qui ont beaucoup une grosse audience. Mais globalement, ils sont comme nous. Donc ils ont une certaine, oui, ils ont une certaine responsabilité.
Ouais, absolument.
Après, pour revenir, c'est vrai, les influenceurs IA, j'ai l'impression que ça commence à émerger un petit peu. Des personnes, mais qui le contredisent pas, avec des bios sur leur profil qui disent personne IA, je sais pas trop quoi. Après, ça, c'est un support. Après, si les messages qui sont véhiculés sont vrais, bon, est-ce que c'est un mal en soi? Je sais pas. Après, ce qu'il faut savoir aussi la désinformation qu'il peut y avoir, notamment sur les vidéos, par exemple, ou les posts comme ça, c'est important de checker, de regarder dans les commentaires, choses comme ça, les gens peuvent réagir.
Voilà.
Et
toujours garder présent à l'esprit qu'il faut vérifier.
On peut se faire avoir avec une vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant. On peut encore arriver à discerner le vrai du faux, mais ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que, même si une vidéo, on peut la trouver bizarre, déjà, on peut trouver une partie de réponse dans les commentaires, dans les réactions, choses comme ça.
D'où les commentaires à vérifier.
C'est ça.
Ça peut être aussi une source de meilleure information.
Une forme de vérification.
Merci, Valentin. Miguel, toi, est-ce que tu penses que les plateformes en font assez pour lutter contre la désinformation? Non. Tu es comme ça, catégorique.
Non.
Donc, qu'est-ce que, si vous deviez donner un conseil justement à tous ceux qui font vivre ces plateformes, ce serait quoi?
Ne vous laissez pas influencer.
Oui.
Ne vous laissez pas influencer et ouais, c'est juste ça, et ne vous laissez pas influencer.
Ok. Merci. Alors, j'ai posé une question au groupe précédent. Je vous la pose. Vous essayez de répondre parce qu'on a déjà un petit peu débordé du temps, je crois, du temps de parole. Mais vous êtes tous donc à la mission locale Valais-Montmorency. Okay. En un mot, ça vous apporte quoi là, de faire partie de ce groupe?
Soutien, confort.
Merci, Miguel. Bien. Valentin.
Oui, pareil, permet de sociabiliser, de voir qu'on est plusieurs à avoir des situations similaires.
Et tu t'y sens bien?
Plutôt bien, oui. Il y a un bel accueil.
Merci Valentin. Alicia?
Ça t'apporte une idée de voix.
Oui.
Un soutien.
Donc toi aussi, tu t'y sens bien à la mission locale. Oui, merci ça. Alicia. Benjamin, un mot pour définir ton appartenance à la mission locale.
Je dirais pareil que les autres, aide, soutien, confort. Que du positif, ouais.
Isen?
Pareil aussi, aide, soutien, aussi découverte, on découvre beaucoup de choses.
Donc un vrai plus.
Oui.
Merci. Laïssa, ton mot de conclusion pour ces jeunes, Miguel, Valentin, Alicia, Benjamin et Vicente?
Je pense que là, ils ont pu s'exprimer. C'est important parce qu'on ne les entend pas assez, je trouve. Et donc, c'est l'opportunité pour eux de s'exprimer sur les sujets qui sont importants pour eux. Et oui, le téléphone, c'est peut-être vu comme un outil qui peut être compliqué à gérer, mais je trouve qu'ils le font bien, ils ont des bons réflexes.
Ah oui, je trouve.
Et c'est une bonne chose.
C'est sûr, c'est que voilà, la phrase qui revient un petit peu dans mes présentations, c'est que donner la parole aux jeunes, ce n'est pas seulement les écouter, c'est vous offrir un micro et un espace d'expression.
J'imagine le temps d'une seconde. Et si je changeais de monde? Je veux un fruit du démon. Devenir le chef du village d'un autre monde. Être le roi des pirates ou avoir des pouvoirs. Incarner le personnage principal de l'histoire. Je fais le vœu d'être un cœur ou l'empereur. Pour fendeur ou dans un jeu. Maîtriser le feu ou la glace. Traverser l'espace. Décimer des monstres infâmes. Si j'ai une chance infime d'incarner le rôle principal d'un anime. Je vis le passé, mais vois le présent, le futur dans tes souvenirs. Je veux changer le cours du temps, être l'élu d'un règne sans m'enfuir. Au-delà des murs comme l'assaillant, je gratte de mes textes sur le papier ou le bloc. Pas de menace ou pas de provoque, sinon je deviens Kira. J'écris ton blase dans le Death Note. J'en ai en stock, je pars à la traque, sans équivoque, l'une des monia. Je veux un fruit du démon, devenir le chef du village d'un autre monde. Être le roi des pirates ou avoir des pouvoirs. Incarner le personnage principal de l'histoire. Je fais le vœu d'être hunter ou l'empereur. Pour fendeur ou dans un jeu. Maîtriser le feu ou la glace. Traverser l'espace. Décimer des monstres infâmes. Si j'ai une chance infime d'incarner le rôle principal d'un ami. Je vais être hors norme comme Escanor. Être le plus fort de tous les hommes. Qu'on me transforme, trouver un trésor rempli d'or et bien énorme. Je veux un démon de compagnie dans un monde de magie. Renoncer aux ténèbres, au péril de ma vie. Même si je déserte une ville qui m'a vu grandir. Mon âme pour un Sharingan. Mon espoir pour l'extension du territoire. Le miel coule de mes yeux sur mon visage. Quand ce rêve n'était qu'un vœu. D'être le personnage principal. Je veux un fruit du démon, devenir le chef du village d'un autre monde. Être le roi des pirates ou avoir des pouvoirs. Incarner le personnage principal de l'histoire. Je fais le vœu d'être un cœur ou l'empereur. Pour fendeur ou dans un jeu. Maîtriser le feu ou la glace. Traverser l'espace. Décimer des monstres infâmes. Si j'ai une chance infime d'incarner le rôle principal d'un anime. Je veux un fruit du démon, devenir le chef du village d'un autre monde. Être le roi des pirates ou avoir des pouvoirs. Incarner le personnage principal de l'histoire. Je fais le vœu d'être hunter ou l'empereur. Pour fendeur ou dans un jeu. Maîtriser le feu ou la glace. Traverser l'espace. Dessiner.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Dernière ligne droite pour cette parole aux jeunes en présence de jeunes de la mission locale de la vallée Montmorency. Et dans le studio, eh bien, de nouveau Benjamin, Eric, Chelsea, Sacha et Justine. Donc ce débat avec vous va porter sur l'environnement familial et se poser la question, est-ce que l'environnement familial influence sa propre réussite? Donc Chelsea, est-ce que tu veux nous donner ton sentiment sur cette question?
Moi je pense que oui. Parce que le cadre de vie, c'est très important. Parce que, par exemple, déjà financièrement, déjà, on a la chance qu'en France, on a droit à l'école gratuite. Mais, par exemple, pour les études supérieures, y a des études et tout, il faut dépenser de l'argent et toutes les familles ne sont pas aptes à pouvoir payer. Et du coup, ça freine un peu au niveau des études. Et aussi, les problèmes familiaux. Si on a des problèmes familiaux, ça peut affecter notre mental. Et du coup, on manque de concentration à l'école. Ou encore, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a quelqu'un de mon entourage qui a eu des problèmes familiaux. Et du coup, elle a dû beaucoup bouger. Et ça fait que ça a beaucoup bouleversé son parcours scolaire.
Son avenir.
Ça a beaucoup bouleversé son parcours scolaire. Du coup, elle redoublait et tout. Elle avait pas un bon cadre pour pouvoir réviser ses examens. Et du coup, elle les a pas eu. Et du coup, voilà.
Merci, Chelsea. Benjamin, ton sentiment?
Je suis d'accord avec Chelsea sur ce qu'elle vient de dire. Moi je pense aussi que ça peut, que les problèmes familiaux peuvent impacter impacter son avenir, parce qu'on peut être pensif, on peut être songeur, on peut se dire pourquoi je suis là, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi ça, pourquoi ceci,
se remettre en question. En même temps c'est pas mauvais de se remettre en question.
Oui,
c'est aussi une façon de progresser.
Mais sauf que, étant donné qu'à l'école, il demande un constant de concentration monumentale,
ça, c'est dur.
C'est dur, c'est vraiment très dur.
Merci Benjamin. Alors Eric, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que l'environnement, on peut s'épanouir malgré des tensions familiales?
Je pense qu'on ne parle pas assez souvent des traumatismes des enfants qui subissent des problèmes familiales. Et que
c'est un vrai impact sur l'avenir de la personne.
Et surtout quand on a 20 ans, parce que les traumatismes, quand on ne les règle pas, quand on est petit, ça nous suit.
Ça nous poursuit.
Et c'est compliqué après.
Merci Eric, merci. Justine, alors, j'ai posé la question autrement. Est-ce que les problèmes familiaux peuvent être un frein ou parfois un moteur?
C'est une question très compliquée, là. Ça peut être un moteur dans le sens où on se dit, on veut sortir de là.
Oui.
Donc on va tout faire pour s'en sortir. Mais ça peut être un gros frein aussi parce que justement, les traumatismes, etc. vont affecter notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et si on n'a pas la santé mentale et la santé physique avec... affronter ces épreuves pour s'en sortir parfois sont trop complexes.
Ouais.
Et en même temps, je pense que des fois ça peut faire un peu l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'on va mettre une armure, on va se battre, on va sortir de ce problème, mais une fois qu'on est enfin sorti, tout ressort d'un coup. Et tous nos problèmes nous reviennent dans la figure, en fait.
À la figure, ouais.
Et c'est pas résolu.
Forcément.
Voilà, c'est pas forcément une solution complète, quoi.
Merci, Justine. Je me demandais si Valentin, tu voulais intervenir sur ce sujet.
Non, je...
T'as pas d'avis, toi, pas frein ou moteur, d'avis, les problèmes familiaux?
C'est vrai que la question est un peu compliquée.
Oui, d'accord. Merci,
j'ai pas Valentin. J'ai pas vraiment réfléchi. Donc,
tu n'as pas réfléchi. Bah, écoute, on te laisse encore quelques minutes si on y revient tout à l'heure. Alors, vous avez souhaité donc... assimiler les, enfin vous avez voulu mettre en regard les problèmes familiaux et puis les dessins animés où souvent les héros ont quand même une situation familiale difficile. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ça, Chelsea? Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment?
Bah, premièrement, déjà, moi, c'était pas mon idée.
Ah, d'accord.
J'ai pas vraiment de point de vue, mais...
Si tu devais en donner un, maintenant?
Les dessins animés, ça influence beaucoup notre vie quand on est enfant, parce que quand on est enfant, on regarde beaucoup les dessins animés. Et quand on voit les familles des familles des dessins animés et tout,
Est-ce que c'est pas une façon justement de voir des problèmes, des difficultés qu'on a dans sa vie, qu'on n'est pas forcément capable d'exprimer, et le dessin animé nous renvoie cette image.
C'est ça, ça nous permet de pouvoir se comparer,
ouais.
de compatir.
Donc. Oui, c'est bien.
Ouais, et peut-être que les dessins animés pourraient nous apprendre à gérer ça.
C'est ça.
Avec leur morale.
D'une façon indirecte, comme ça, ça peut être une source de réflexion.
Oui, c'est ça.
Merci, Chelsea. Ah. Benjamin, toi, le dessin animé, est-ce que tu penses que ça aide à mettre des mots sur ce qu'on vit?
Ouais.
T'es pas convaincu?
Une partie de moi est convaincue et l'autre, pas tellement. Parce que si on devrait donner des exemples, on pourrait dire pour DC Comics, on pourrait dire Batman, et dans Marvel, on pourrait dire Spider-Man, par exemple. Donc, Batman, il a perdu ses parents assassinés devant lui, et Spider-Man, c'est pareil, il a vu son oncle se faire tuer. Donc oui, ça peut impacter et puis changer notre vision des choses quand on est enfant.
Et là, tu es en train de nous donner des exemples où les héros ont réussi à grandir malgré les épreuves.
Ouais.
Donc c'est aussi une source de réflexion, comme on disait avec Chelsea. Merci Benjamin. Toi Eric, est-ce que les dessins animés t'ont aidé parfois à avoir une autre vision de ta propre vie?
Moi déjà je regarde pas beaucoup de dessins animés.
Tu regardes pas les dessins animés?
À part Garfield.
Même les dessins animés pour adultes finalement.
Ouais.
Mais si tu devais avoir une réflexion sur.
Des fois les dessins animés ça reflète un peu certains problèmes familiaux. Donc on se reconnaît dans quelques-uns.
Alors, il y a des dessins animés tels que Alerte Rouge qui parle de la relation mère-fille et d'une transformation. Il y a Lucas sur l'identité, la peur du rejet. Il y a Vice Versa, l'émotion qui parle d'émotion et de bouleversement. Encanto qui parle de la pression familiale et des attentes. Et puis Laïssa, toi tu nous as parlé de Amélie et la métaphysique des tubes.
Ouais.
Donc, pour toi, c'est vraiment un exemple phare.
Je pense que ça fait partie des dessins animés où les enfants peuvent le regarder, comme tout ce que tu as cité avant, mais qu'un adulte va avoir un autre regard. Et puis, c'est des dessins animés où il y a toujours un bouleversement dans la vie. Et puis, ça montre bien la résilience des personnages. Alors oui, après, on peut le prendre comme exemple pour sa propre vie ou se dire, oui, là, c'est un héros fictif, donc moi, j'y arriverai jamais. Mais je trouve que ça donne un imaginaire qui permet aussi de se projeter peut-être vers des possibilités qui sont accessibles dès l'enfance, ou de voir que la vie, elle n'est pas toute lisse, et qu'on peut quand même s'en sortir. Donc, je pense que c'est quand même des bons exemples à avoir quand on est enfant, et de se dire, OK, même eux, il s'est passé des choses compliquées dans leur vie, et pourtant, ils arrivent là où ils sont à l'âge adulte,
exemples,
plus ou moins écorchés pour certains.
Mais... Oui, puis des exemples accessibles, en somme.
Oui. Hein,
ouais. Merci, Laïssa. La question que j'ai posée au groupe précédent et qui me tient à cœur, vous faites partie donc de la mission locale. En un mot, comment vous décririez cette appartenance à la mission locale? Qu'est-ce que ça vous apporte, Chelsea?
Je dirais du changement.
Oui.
Parce que du coup, comme j'ai pas trouvé de travail ni j'ai pas d'études. Bah, du coup, ça me permet de changer d'horizon, parce que toujours rester chez soi et tout, c'est un peu fatigant. Et en plus, comme j'ai pas vraiment d'amis, comme je viens d'emménager, bah, ça me permet de faire des nouvelles rencontres.
Oui. De se sociabiliser.
Oui, c'est ça.
Merci, Chelsea. Bien. Benjamin, on a eu ton sentiment tout à l'heure, hein, donc tu nous avais parlé de soutien, donc je pense que tu confirmes.
Oui, bah oui, je confirme, j'avais parlé de soutien, et aussi le fait que voilà, ça aide, que pareil, je suis dans la même situation que Chelsea, j'ai pas de travail, voilà, c'est au bout d'un moment, ça commence à devenir à être
un peu pesant,
agaçant de rester chez soi à rien faire, quoi.
Donc venir à la mission locale, c'est vraiment un plus.
Ouais, et puis aussi, ça m'aide aussi à trouver une formation et un travail.
Merci Benjamin. Eric, toi, faire partie de la mission locale Vallée Montmorency, qu'est-ce que ça t'apporte?
Ben déjà, j'ai une conseillère qui est extrêmement gentille,
oui,
qui me suit depuis 2 ans maintenant. Et... qui m'a apporté beaucoup de nouveautés, parce qu'il y a des choses que je faisais pas avant, que j'ai pu faire et que je fais. Donc,
et qui te font envisager un avenir meilleur.
Oui.
Merci Eric, merci. Justine?
Bah, ça change pas de tout à l'heure au final, hein, toujours soutien, présence absolue et qui fait du bien, quoi. Et comme disent les autres, ça me permet de voir de nouvelles choses et des possibilités qu'on n'aurait pas imaginées.
Merci Justine. Laïssa, le mot de la fin est pour toi.
Bah, je suis contente d'avoir entendu autant de sujets différents qui viennent d'eux, qui leur retour sur le travail qui est fait à la mission locale par les conseillers, qui sont l'essence même de ce qui se fait à la mission locale, de les aider à avancer dans leur avenir pour devenir plus autonomes, pour trouver un travail, une formation, une orientation aussi. Et finalement, c'est plein de thématiques qui sont revenues via d'autres sujets.
Oui.
Mais sur l'inquiétude qu'ils ont de l'avenir. Et donc, les missions locales, elles ont ce rôle-là, finalement, de rassurer et de les mettre aussi devant d'autres possibilités auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé. Et du coup, ce rôle-là, j'ai l'impression que de tout ce qu'on a entendu, il est partiellement réussi déjà. Et j'espère pour leur avenir aussi complètement bientôt.
Et comme tu l'as dit, finalement, ça résume un petit peu le thème qu'on a abordé ce matin, une vraie quête de sens à sa vie.
Hein, ouais, c'est ça, quête de sens, voir comment la société impacte leur avenir aussi, et d'écouter leurs inquiétudes. Et puis, ils ont souvent des solutions aussi, finalement. On l'a vu pour le temps d'écran, finalement, ils se régulent d'eux-mêmes. L'IA... La réguler, ça fait partie aussi des solutions que eux-mêmes donnent. Et ouais, donc je pense que la solution, elle fait partie aussi de leur génération.
Merci infiniment, Laïssa, et puis merci infiniment à vous tous, participants de cet atelier média. Merci pour votre engagement, votre sincérité, votre énergie. On comprend que prendre la parole, c'est jamais anodin. C'est oser s'exprimer, s'affirmer et dire qui l'on est. Et puis partager sa vision du monde. Et aujourd'hui, vous l'avez fait avec talent. Et voilà, merci. Puis à très vite, j'espère, chez IDFM Radio.
Merci à toi.